et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du management de J'avance, consacré aujourd'hui à Douglas McGregor. Douglas McGregor naît le 6 septembre 1906 à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Il mourra le 1er octobre 1964. Voué a priori à une carrière industrielle à Détroit, il n'imagine pas devenir l'une des grandes figures du management contemporain. Il faut revenir aux racines de Douglas McGregor et à sa jeunesse pour comprendre la forme humaniste de son engagement. D'abord, Douglas grandit dans une famille très engagée auprès des sans-abri. Son oncle, le frère de son père, a créé la Fondation McGregor, dont l'objectif était, selon ses mots, de soulager et améliorer le bien-être de l'humanité. Au passage, cette fondation lança dans les années 20 les premières entreprises sociales, telles que des fermes ou des entreprises de bois, destinées à donner du travail aux plus démunis, et développa également les premiers crédits à taux réduit. Cette fondation existe toujours et continue son action, notamment auprès des populations défavorisées de Détroit. Pendant sa jeunesse, Douglas travaille dans l'entreprise familiale et contribue à aider les plus pauvres. Par ailleurs, Douglas McGregor grandit dans le Détroit du début du XXe siècle, la ville du développement de l'industrie automobile par excellence. C'est donc tout naturellement, après un baccalauréat en mécanique, qu'il devient préposé dans une station-service jusqu'à arriver, à New York, au poste de gestionnaire dans une entreprise de distribution d'essence. Il y côtoiera le travail dans des entreprises industrielles, aux organisations très rationnelles. Mais il continue en parallèle ses études. Il obtient un bachelor, puis un master, et décroche enfin son doctorat en psychologie à l'Université d'Harvard en 1935, à l'âge de 29 ans. Pendant ses études, Douglas McGregor sera étudiant d'Abraham Maslow, à l'origine de la théorie de la motivation par la hiérarchie des besoins, et il travaillera d'ailleurs à partir des travaux de Maslow en les intégrant à ses propres recherches, sans pour autant obtenir l'assentiment de Maslow. À l'issue de son doctorat, Douglas McGregor endosse alors la fonction de professeur, d'abord à l'Université d'Harvard, puis au Massachusetts Institute of Technology à Cambridge. Il la quittera quelques années pour devenir le directeur de l'Antioch University Midwest à Yellow Spring dans l'Ohio de 1848 à 1954. Cette université s'appela d'ailleurs pendant de longues années l'Antioch University McGregor en hommage à sa contribution avant d'être rebaptisée en 2010. Après cette belle parenthèse, McGregor reviendra enseigner au MIT jusqu'à sa mort prématurée, à l'âge de 58 ans. Il est alors à la fois professeur de gestion et de management, très apprécié d'ailleurs car participatif et souple, et consultant en ressources humaines auprès de nombreuses entreprises. Au MIT, Douglas McGregor enseigne plus précisément à la MIT Sloan School of Management, école de management, créée à l'époque grâce à une subvention de la Fondation Albert Sloan et dont le MBA fait, aujourd'hui encore, partie des plus réputées au monde. Alfred Pritchard Sloan était à la fois théoricien du management et entrepreneur. Il dirigea General Motors de 1923 à 1956. C'est précisément sous son impulsion que McGregor a pu réaliser et formaliser ses travaux. En effet, Alfred Sloan posa un jour la question lors d'une réunion au MIT du fondement même du management, inné ou acquis, ainsi que de l'impact de la formation des cadres et des dirigeants sur le fonctionnement de leurs organisations. Pour travailler sur le sujet, sa fondation délivra des subventions de recherche, dont une à Douglas McGregor. Si McGregor ne fut pas forcément très prolixe en matière de publication de livres, son ouvrage principal, La dimension humaine de l'entreprise, publié en 1960 aux États-Unis et traduit en 1969 en France, est une œuvre majeure qui reste une référence aujourd'hui. Pour bien comprendre l'apport de Douglas McGregor, il faut resituer le contexte des théories managériales de l'époque. D'un côté, les travaux de Fayol et Taylor ont une influence extrêmement puissante sur les organisations. Leurs travaux préconisent une forme de management très rationnelle. Les organisations doivent être structurées, basées sur des règles et des procédures dans lesquelles les hommes vont s'intégrer. Leur théorie rencontre à l'époque le succès auprès des grandes entreprises par leur application dans le développement industriel. Pour synthétiser, on peut dire que l'organisation prime et l'homme s'y adapte. En parallèle, se développe un courant basé sur les relations humaines qui met en avant la motivation de l'homme dans la réussite de l'organisation. Précurseur en son temps, Mary Parker Follett avait initié ce courant. À l'époque de Douglas MacGregor, on retrouve bien sûr à ses côtés Abraham Maslow, mais on peut également citer Elton Mayo ou encore Kurt Lewin. En termes de temporalité, si ces deux écoles rationnelles et humanistes cohabitent un peu, on peut dire plutôt que l'école humaniste succédera à celle de Taylor et Fayol, qui meurent respectivement en 1915 et 1925, alors que les théories de Maslow, MacGregor, Mayo, Lewin, entre autres, se développeront durant toute la première moitié du XXe siècle pour rayonner encore aujourd'hui. Et c'est important de le souligner, car c'est précisément en s'appuyant sur les conséquences en matière de performance des théories rationnelles que cette école basée sur les relations humaines et la motivation se développera. Douglas MacGregor développera progressivement la théorie XY. Il précise la base de ses travaux dans son livre en indiquant que, ouvrez les guillemets, derrière chaque décision de commandement ou d'action, il y a des suppositions implicites sur la nature humaine et le comportement des hommes. Fermez les guillemets. Douglas MacGregor développe dans la théorie X l'idée selon laquelle le management estime que l'individu est paresseux, n'aime pas le travail et donc n'aime pas prendre des initiatives. Il n'est pas créatif et fuit les responsabilités. Le management, selon cette théorie X, nécessite donc un contrôle du comportement de l'individu. Selon la théorie Y, l'individu possède naturellement des capacités d'invention, d'innovation, de créativité. Il aime prendre des initiatives, est autonome et recherche des responsabilités. Dans la théorie Y, l'individu exerce donc un contrôle par lui-même et sur lui-même. Décliné ainsi, on perçoit le cercle vicieux qui se met en place dans l'application par la direction de la théorie X. L'individu ne prenant pas d'initiative et n'étant pas autonome, il faut le contrôler. L'individu se retrouvant ainsi contrôlé en permanence et le travail se trouvant vidé de tout sens, il développe sa passivité et se contente de faire ce qui lui est demandé. Et se contentant de faire ce qu'on lui demande, la direction s'auto-confirme ainsi l'assomption selon laquelle les individus n'aiment pas le travail. À l'inverse, la mise en œuvre de la théorie Y crée un cercle vertueux qui s'enrichit et développe la performance de l'organisation. Profitant d'une liberté d'action, le comportement de l'individu se traduit par l'engagement et la prise d'initiative au service de la performance. Douglas MacGregor s'est appuyé sur la théorie de la motivation formalisée par Abraham Maslow par la hiérarchie des besoins. Selon Maslow, la réalisation d'un niveau de besoin permet à l'individu de développer les besoins du niveau supérieur. Il identifie 5 niveaux de besoins. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime et enfin les besoins d'accomplissement. Les besoins physiologiques se traduisent par le fait de pouvoir se nourrir, dormir, respirer, etc. Les besoins de sécurité, par le fait d'avoir un emploi, des choses à soi par exemple. Les besoins d'appartenance se concrétisent par la vie sociale, le fait d'avoir des amis. Les besoins d'estime sont comblés par le fait de se sentir utile, d'avoir de la valeur, de trouver un sens à nos actions. Et les besoins d'accomplissement permettent de développer nos valeurs et d'être en harmonie avec elles, d'appréhender et de développer son propre potentiel. En relation avec la hiérarchie des besoins de Maslow, Douglas McGregor pose une question. Comment pourrait-on actionner un comportement en recourant à la contrainte et sur des individus qui sont maintenus au niveau de la satisfaction des besoins physiologiques? En d'autres termes, si on n'accompagne pas l'individu dans la satisfaction de ses besoins, il y a peu de chances qu'il puisse donner le meilleur de lui-même dans l'objectif d'être performant pour l'organisation et de s'épanouir pour lui-même. En maintenant l'individu dans ce contrôle permanent et en ne lui faisant pas confiance, on l'infantilise et l'organisation a tout à y perdre. Vous l'aurez compris, la théorie X maintient l'individu dans les premiers niveaux de satisfaction des besoins de Maslow, quand la théorie Y, basée sur la confiance et la responsabilisation, lui permettra de s'épanouir et satisfaire ses besoins d'accomplissement. À partir de cette déclinaison, Douglas McGregor développe les assumptions, que l'on pourrait traduire aujourd'hui par croyances, relatives à chacune de ces théories, croyances limitantes d'un côté et croyances aidantes de l'autre. Du côté de la théorie X, nombreux étaient ceux qui croyaient à l'époque, et encore aujourd'hui, qu'il vaut mieux que l'individu maîtrise parfaitement son poste et qu'il est inutile qu'il cherche à prendre des initiatives. Et que, bien au contraire, la prise d'initiative présente des risques dans la mesure où il sort ainsi du cadre qui lui est assigné. Or, l'individu est souvent le mieux placé pour résoudre les dysfonctionnements liés à son poste, mais soumis à un contrôle strict, sans incitation à s'exprimer, il se gardera bien, quand un dysfonctionnement se présentera, de proposer des solutions. À l'inverse, la théorie Y offre aux managers de nombreux outils vertueux, comme la délégation, la décentralisation, le management participatif, la direction par objectif, à condition qu'elle soit bien utilisée. Et cette croyance aidante de la performance par l'autonomie révèle là un levier clé de réussite pour l'organisation. Il est aisé de faire ici le lien entre la théorie XY et le style de leadership. Le style de leadership autoritaire se rapprochera de la théorie X, quand le style de leadership participatif ou coach prônera la théorie Y. S'il n'était pas forcément simple de développer cette théorie dans les années post-tayloriennes, l'histoire ou la légende dit que McGregor est intervenu dans les années 50 chez Procter & Gamble pour participer à la mise en place d'une usine à Augusta, en Géorgie. Il y développa la mise en œuvre managériale de la théorie Y, permettant ainsi à l'usine d'être 30% plus productive que ses concurrents dans les années 60. Un avantage concurrentiel secret, a priori bien gardé pendant de nombreuses années. Comme toute grande théorie du management, la théorie XY eut son lot de détracteurs. Néanmoins, le XXIe siècle nous montre à quel point cette théorie est ô combien d'actualité. Douglas McGregor était en avance sur son temps et presque encore sur notre époque actuelle. En effet, la mise en œuvre parfois chaotique pour certaines organisations du télétravail en cette période de crise sanitaire et la croyance limitante de certains dirigeants ou managers, doutant encore de leurs collaborateurs en télétravail, à travers la question « travaille-t-il vraiment ?» en est l'illustration. Mais les exemples de succès, grâce à la mise en œuvre de la théorie Y, se multiplient, et c'est tant mieux. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast du Management de J'avance. En attendant, vous pouvez le retrouver et me retrouver sur mon site j'avance.fr. Prenez soin de vous.